accompagné, c'est tellement mieux.
Qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je?
Des grandes questions, ma
femme. Où irai-je? Salut!
Hello!
J'ai pris mon café, fait que ça devrait bien aller dans quoi? 10-15 secondes à peu près.
Hey, t'as été fin, tu m'en as fait un.
Je voulais faire un Kevin Parent, mais ils m'ont dit que c'était pas approprié dans une entreprise.
Idéalement, non. Idéalement.
Salut, Audrey, je vais juste te dire, je t'ai fait un café. Je t'ai grainé ton verre.
Oui, j'aurais pas apprécié l'expérience. Merci d'avoir gardé ça pour toi.
Kevin Parent qui revient dans l'actualité en disant les gens ont été méchants avec moi. J'étais une cible facile. T'as-tu vu ça passer ce matin?
Oui, mais j'ai vu son nom. En fait, c'est quoi la vérité? Je vais être vraiment transparente avec toi. J'ai vu la notification sur mon téléphone.
Ouais.
Je l'ai swipé. J'ai pas beaucoup d'intérêt envers Kevin Parent.
Ben moi, c'est quelqu'un que, écoute, ça, Pigeon d'argile, je pense que c'était son premier album.
Oui, ça se peut, ça se peut.
J'ai
pour
vraiment trippé sur cet album-là. Oui. D'après moi, je connais toutes les paroles par cœur. Puis, tu sais, dans les dernières années, quand c'est sorti là, avec les fameux mouvements MeToo et tout ça, de savoir qu'il aurait peut-être fait des affaires de même, ça m'avait dégoûté un peu.
C'est bel et bien Pigeon d'argile en passant.
C'est Pigeon d'argile, oui. Ça m'avait dégoûté un peu. À un moment donné, il y a de ça quelques années, il s'était battu au Ashton sur Grande Allée.
Oui.
Et je vais vous raconter la vraie histoire après, comment ça s'est passé. Mais au départ, il disait qu'il avait été attaqué par les méchants Anglais. et pour finalement tomber sur les images vidéo qui donnaient lieu sur justement la petite terrasse du Ashton, où il aménageait à chaque année un genre de petit foyer. Où il ravitaillait là, avec du bois et tout ça. C'était super convivial. Puis là, les gens arrivaient, ils se réchauffaient autour du feu. Puis on voit un Kevin Parent qui est vraiment trop saoul, qui commence à botter les bûches. Puis on voit les Anglais, les méchants Anglais, qui commencent à dire à Kevin Parent, là, calme-toi. Puis à un moment donné, il a botté une bûche puis ça a revolé sur la jambe d'une ontarienne. Fait que son chum a juste fait « paf! »
Oh, c'est de même que ça a commencé. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'accumulation de petits comportements ici et là, puis c'est plate à dire, mais quand t'es connu, t'es une cible facile.
Je comprends, mais lui, personne qui le connaissait, là. C'était juste un maudit fatigué qui était trop saoul, qui achalait le monde. Puis le lendemain, il nous avait reviré ça en disant « c'est des gens racistes! » Puis,
oh mon Dieu Seigneur,
ils m'ont
c'est
fait
pas
ça
aidé,
parce que je parlais français pour finalement... La police de Québec a décidé d'abandonner la recherche là, de ces deux individus-là quand ils ont vu les images vidéo.
Mais tu vois, je suis en train de passer à travers l'article là, où il dit en entrevue qu'il a été une cible facile. Là. Puis pour moi, c'est encore un discours qui l'aide pas.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Une firme de communication qui aurait été embauchée par Kevin Parent aurait dit « Si tu as tente de donner une entrevue, donne une entrevue, mais sois sincère. Prends ta partie du blâme et ne mets pas ça sur le dos des gens qui considèrent avoir été des victimes dans ta vie. »
Peu importe ce qu'on pense des Julien Lacroix de ce monde, là, peu importe ce qu'on a en tête par rapport aux actions, puis peu importe comment on les juge, t'sais, Julien Lacroix, s'il y a une chose qu'il a compris avec sa firme de com', là...
C'est de l'écouter.
Ça a été, oui, de l'écouter puis de tout le temps mettre ça sur lui, sa faute, son évolution. Puis ça, tu vois, c'est quelque chose que je suis capable de respecter à travers son processus parce qu'il ne rejette jamais ça vers l'extérieur puis tu ne peux pas te le permettre dans une situation comme celle-là. Fait que Kevin Parent aurait besoin... on me dit qu'il y a une recherche d'emploi en ce moment-là. Il aurait besoin de quelqu'un en communication, si jamais ça vous intéresse.
Mais pour ces firmes-là, peut-être que ça pourrait être le sujet qu'on pourrait avoir dans l'open mic.
Hey, ça pourrait être intéressant, ça.
Des gens qui font ça de leur vie. Aider des entreprises... C'est des communications d'urgence. J'en avais un dans le temps, mais malheureusement décédé, un homme que j'adorais. C'est des communications d'urgence. Fait que lui, il est embauché, il fait des plans d'urgence pour les entreprises. Je sais pas, moi, le président de l'entreprise fait prendre la bisoune à l'air dans un parc.
Ouais. Comment tu gères ça?
C'est ça. Il s'appelle Joël, ce président-là.
Admettons.
Comment tu gères ça? T'sais, puis il y a toute une façon de faire qui va faire en sorte que ça va finalement bien ressortir. Ouais. Pas sur le fait, bien entendu. Mais tu diras pas de niaiserie sur le fait. Puis quelques années plus tard, tu vas sortir gagnant de ça.
Mais Julien Lacroix avait... C'est après qu'il a affirmé ça, engagé cette firme-là de communication parce que sa première réaction après les événements, ça avait été, je ne sais pas si tu te souviens, de faire un long post Facebook qui faisait ni queue ni tête.
Exact.
Où il renvoyait les accusations vers les autres. Ça pourrait être vraiment intéressant.
Ouais, mais c'était une erreur monumentale.
On a la collègue Laurence Gagnon qui a travaillé chez Tact longtemps puis qui a fait ça un peu de la gestion. On pourrait se tourner vers elle ou essayer de trouver quelqu'un, mais je serais curieuse de voir comment on gère. Même au niveau de la politique, là, comment tu gères les discours, tu sais?
Oui, j'en ai un autre, les rendus député du Bloc québécois, René Villemur, qui, lui, faisait ça de sa vie. Il faisait des discours pour les grands dirigeants de ce monde, un peu partout dans le monde.
C'est je
peux
hot,
pas vous dire
trouve.
Pour qui il a travaillé. Moi, je sais pour qui il a travaillé. Mais il était capable de se mettre dans la peau d'un président, exemple, entre guillemets, d'Afrique, okay? Un des présidents de tous les pays qui sont là. Puis il se mettait dans sa peau, puis il disait, bon, ben je vais mettre ses propres mots, je vais les mettre dans un texte pour organiser
avec les
tout
enjeux,
ça, pour que ça sorte
puis,
super
ouais,
bien.
Ouais.
C'était un art faire ça.
Ben oui, mon Dieu.
Puis René Villemur faisait ça, maintenant il est rendu pour le Bloc, fait que c'est plus mon ami.
Mais quand... Vous êtes séparés à ce moment-là.
Mais quand il va sortir de là, là de son enfer, ben il va redevenir mon ami, puis on le recevra en ondes. C'est quelqu'un que j'adore. René Villemur, c'est vraiment une tête. Là. C'est vraiment un gars avec une tête à ses épaules. C'est un philosophe que j'adore. Fait que oui, écoute, on se mettra ça, là. On se mettra un petit crochet.
Ben, je me prends une note à l'instant.
Ma blonde étudiait en communication pour faire ça. Elle voulait être spin doctor. Ah, ouais. C'est le fun, ça. Salut Marceau, Sylvain. Salut Marceau, j'ai écouté ton match de lutte hier soir. Tu m'as impressionné. Félicitations pour tout ce que tu as accumulé, pour la bouchée généreuse, mais pour ton combat aussi, c'était magnifique. En même temps, c'est pas l'affaire d'une seule personne. Hein. Je vois tannant avec ça, mais on est plusieurs à avoir dansé pour ce gala-là. Puis tous ceux qui se sont présentés, qui ont payé, font en sorte qu'on va pouvoir donner un gros montant. C'est jeudi qu'on donne le montant final. On a annoncé sur le stage 17 500.
C'est plus que ça, finalement. C'est
on
beaucoup
menti.
Plus.
Ils nous
c'est...
ont fait mentir, je sais pas.
C'est pas
il a,
encore.
Il y a des gens qui se sont dit être mes amis. Puis là, okay. Je regarde les noms, je les connais pas. Mais quelqu'un qui a donné un généreux 1 000$. Mais je pense que c'est quelqu'un que je connais, mais qui voulait pas que je me sente mal, qui a donné ce montant-là.
Anonyme.
Fait qu'il a comme donné un faux nom. Fait qu'il y aurait comme un 1 000$ là, qu'on s'explique mal d'où il vient,
mais
qui se
donc.
Serait ajouté. Fait que peut-être qu'on approche du 19 000.
Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont franchement généreux de cette façon-là. Il y a une couple d'années, il y avait des animateurs à la station qui avaient décidé de faire le défi Le Camp. Puis ils ramassaient des sous, puis tu as un auditeur qui avait donné un genre de 2 000$. Puis lui, c'était comme sa contribution des dernières années là, pour une bonne cause. Il avait décidé que c'était là. C'était un one-shot deal. Puis anonymement, il avait donné un gros montant de même. Tant mieux, tu sais.
Ben oui. Oui, oui, puis mais c'est ça. J'aimerais quand même savoir, s'il m'écoute, là, j'aimerais quand même savoir lequel de mes amis auditeurs a donné ce 1 000$-là.
C'est pas rien, 1 000$.
J'ai essayé de faire des démarches auprès de Marie-Pierre par l'entremise de Kim, là, qui est le cerveau derrière ce gala-là. J'ai dit, c'est-tu possible d'avoir au moins ses coordonnées? T'sais, donnez-moi pas son nom, mais donnez-moi ses coordonnées pour que je puisse y laisser un message, ou encore y dire un gros merci. J'ai dit, c'est quand même impressionnant, là, 1 000$ d'un coup. Il y en a plein qui l'ont fait. Mais de savoir que quelqu'un le fait de façon anonyme, je le dirai pas en ondes, mais au moins, je vais pouvoir y serrer la pince ou encore y dire un gros merci. T'aimes-tu le café, toi?
Hey, de façon récréative, ça se dit-tu?
De façon récréative?
Oui, mais tu sais, il y a du monde qui en ont besoin.
C'est
toi,
pas
ton...
comme la drogue, là.
Non, mais je...
Tu sais, mettons, quelqu'un dit hey, « je prends de la coke, mais de façon récréative, comme pour
ça. » Je suis fumeur social.
Je suis fumeur social.
Non, mais tu sais, il y a du monde qui en ont besoin tous les jours.
Tu fumes-tu ou tu fumes pas? Tu prends-tu de la coke?
J'en prends genre 2 fois semaine.
T'en prends 2 fois semaine.
Oui, c'est vraiment un plaisir. C'est comme une barre de chocolat, genre.
OK. Donc, c'est pas un besoin pour toi?
Non, c'est okay. Ça. C'est pour moi, ça que je dis de façon récréative.
Moi, le café est un besoin et une habitude.
Combien par jour, hein?
Ah, je pourrais en prendre, tu sais, si j'avais pas peur de péter du cœur, je pourrais en prendre 20 par jour sans
Arrête,
aucun
oui.
problème. J'aime le bénéfice que le café t'apporte.
C'est-à-dire?
De un, il te tient éveillé. Tes neurones semblent mieux fonctionner. En tout cas, moi, les miennes, oui.
Oui, mais c'est un mythe, ça.
Ah, je sais pas. Faudrait poser la question à des experts.
Filles.
Moi, ça fonctionne. Ah, tu sais, quand j'avais les gros examens, là, mettons, à l'école, je me bourrais de café le soir puis la nuit, puis j'étais allumé comme un rond de poil. J'avais de l'air d'un gars là, qui pouvait courir 4 marathons en ligne. Après ça, j'allais faire mon examen, la tête
là,
bourrée d'informations. Puis après ça, je tombais. Là, je dormais toute la journée.
On appelait ça botcher nos études.
Mais non, c'est le sentiment de réconfort que ça donne le café.
C'est vrai.
La
oui.
chaleur, le matin, c'est les habitudes aussi. On est bien dans notre routine. On dirait que si je rate, dans mon cas, si je rate mon café le matin...
Tu rates ton moment.
Il manque un petit quelque chose. T'sais.
Spécial, c'est pareil.
Je pense pas toute la journée. Puis, je regardais un article où Sylvain Charlebois, est le food professor, est apparu. Puis, il mentionne que le prix du café a augmenté de 23 % dans les 4 dernières années. Ça l'a augmenté comme pas possible. Et lui, il est persuadé que ça va encore augmenter.
Mais c'est que la consommation est tellement grande aussi. Puis, il y a le fait que là, maintenant, c'est parce que le café, il sort pas de nulle part. Hein. C'est des petites graines là au Brésil.
C'est ça.
Là.
Et tel est si bien que sont en train de réfléchir, même au Canada, à faire du café fabriqué en laboratoire.
Je trouve ça bizarre, ça. Tu vois pourquoi ça me dérange, ces affaires-là? C'est tellement bizarre.
Quand j'étais jeune, je me foutais éperdument de ma santé. OK? Fait que je pouvais prendre 2 litres de Pepsi sans aucun problème, là, qu'on volait. En fait, c'était du cola, quelque chose. Là,
oui.
Qu'on volait au dépanneur Sprint dans le secteur de Saint-Sauveur. Il était gratis, il était dehors.
Ah, ben oui, à ce moment-là, tu peux partir avec. T'as
exactement.
Raison.
Fait qu'on attendait que le commis aille faire son ménage en arrière. On allait chercher 2 litres de Coke. Puis on allait boire ça au parc. Puis on était vraiment hot. Quand j'étais jeune, je me sacrais perdument de ma santé. Mais là, avec tout ce qui est modifié, les aliments, le jus. On dirait que je me dis, ouais, peut-être que si on met des fruits et des légumes sur la terre, là, pour nous autres, on a beau avoir. Moi, j'ai pas de religion, j'ai rien, mais je me dis, si c'est là, ça doit être pour une raison.
Ouais.
De commencer à jouer avec ce que la nature a fait, c'est jamais une bonne idée. À mes yeux, à moi, là, puis j'ai aucune connaissance en chimie, là, mais de voir que là, on est en train de prendre la drogue la plus populaire sur la terre, c'est la caféine. Puis on essaie de reproduire le café en laboratoire en y injectant de la caféine. Je trouve que c'est un peu jouer avec la nature. Puis
oui,
je suis pas sûr
Dieu.
Que je serais fan de ça.
Mais moi non plus. Puis du moins, si on s'en va là, c'est correct. Je veux dire, on évolue.
Que je prends du café instantané une fois de temps en temps.
Ouais, mais là. Oui, mais ça reste du vrai café pareil.
Ouais,
c'est juste moulu.
C'est juste que tu as l'impression que tes dents vont fondre.
C'est ça. Mais mis à part ça, il y a quand même une bonne base de café. Moi, tant que c'est dit. Tant que je sais quand je m'en vais acheter du café que c'est du vrai café ou que c'est du café fait en laboratoire. Moi, tant que je le sais, là, j'ai pas de problème avec ça. Au même titre que des gens qui vont prendre des suppléments, tu sais, qui vont prendre, mettons, des suppléments de whey ou d'iso, de la protéine, au lieu de manger carrément de la viande là, ou de la protéine de base, bien, moi, tant que je le sais, tant que je sais ce que je me mets dans la bouche, j'ai pas de problème. C'est s'ils se mettent à vendre le café sans nous dire qu'il est fait en laboratoire que je vais avoir un trouble.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas, c'est peut-être très personnel aussi, là.
Puis, tu sais, c'est des produits chimiques, là. Ils vont prendre des produits chimiques pour reproduire le goût du café, puis ils vont ajouter de la caféine dedans. Puis là, nous autres, on va acheter ça. En autant qu'on l'achète en toute connaissance de cause, là, c'est bien correct. Mais moi, on dirait que je vais rester comme avec les fameux grains de café de Juan Valdez, là. Tu sais, qui se promène avec son âne, là.
En même temps.
Il est dans son champ, il s'en va chercher le café, il arrive avec son âne, puis là, tout le monde dit hey, Juan Valdez!
Mais est-ce que tu sais que ça, c'est une des excursions les plus populaires en République dominicaine?
Juan Valdez?
Non, mais il s'appelle Christian, OK?
Je suis
allé à plusieurs reprises dans le même spot là, en République dominicaine.
Juan Valdez s'appelle Christian?
Non, mais je veux dire, un Christian qui fait la tournée pour te montrer comment le café est fait, puis il est sur son cheval. Puis c'est vraiment, c'est une image qui est marquante, qui est super connue à Punta Cana. L'excursion, là, à ce moment-ci où on se parle, il doit être bien trop vieux. Je ne sais plus s'il est fait encore.
Je ne sais pas, mais là, je suis détruit.
Mais quand j'étais plus jeune, lui faisait ça. Puis le nombre de fois que j'ai fait la même excursion, c'était toujours le même gars.
Je suis détruit.
T'es détruit, mais je m'excuse.
Non, mais je viens,
pas,
je viens de voir quelque chose.
C'est quoi que tu viens de voir?
Ben Juan Valdez, moi, dans ma tête, parce que je le voyais passer quand j'étais enfant.
Ouais.
Fait que Juan Valdez, moi, c'était un monsieur qui cueillait vraiment le café puis qui envoyait le café au
c'est
Canada.
C'est pas ça, hein?
Non, c'est un acteur.
Ben.
C'est l'acteur
qui
joue
Juan
Valdez.
Mais c'est un personnage fictif,
Yann. Ouais, je le savais pas.
Pour vrai?
Je le savais pas.
Hein, ben regarde, on va se coucher moins niaiseux.
Hola, Juan Valdez! J'étais sûr qu'il est. Puis là, je m'aperçois que c'est une entreprise, c'est une multinationale.
C'est comme une bribe de ton enfance qui vient de se défaire un peu, hein?
Ouais.
En tout cas, moi, tant que
c'est
je le sais.
Mentable.
Sinon, ça va me déranger.
Tu sais, quand t'as l'impression d'apprendre quelque chose dans la quarantaine que tout le monde sait depuis leur naissance, là?
Ouais, le fameux I was today years old, là. Ça m'arrive souvent.
J'étais persuadé que Juan Valdez, moi, c'était comme celui qui cueillait le café qui nous envoyait ça au Canada.
Ben non.
Non.
Mais il y en a quelques-uns. Il y a Christian qui existe réellement. Fait juste le changer de nom. Christian cueille littéralement le café en République dominicaine, entre autres.
Bon, on va aller faire un tour, là. Qui sait?
C'est impressionnant, par exemple. Le processus, mais c'est que maintenant, on va manquer de grains, tout simplement.
Oui, mais en même temps, tu sais, je ne sais pas. À un moment donné, il va falloir commencer à creuser dans le sol, là.
Oui, mais tu sais, en même temps, c'est parce qu'on évolue. T'as sûrement vu ça, là, les fameux... Puis là, écoute, là, ça va être boboche, l'essai de... Si vous connaissez le nom 88-971-1021, il y a une nouvelle affaire depuis une couple d'années qui est super populaire pour faire pousser les légumes, les fruits plus rapidement. C'est comme une tour blanche avec des LED, là, avec des lumières.
Tu peux avoir à la maison, là?
Oui. Ouais. Ça fait en sorte que comme en 3 semaines, tout est poussé comme si ça faisait des mois, genre que c'était cultivé. Mm-hmm. On évolue aussi au niveau de la science. Fait que peut-être qu'ils vont trouver un moyen de faire ça pas trop chimique. tu sais. Je me dis...
Je pense que c'est de l'agriculture verticale. C'est comme ça que ça
disait impressionnant.
Dans le reportage à Radio-Canada. L'agriculture verticale. Mais j'ai l'impression, moi, qu'à un moment donné, ils vont comme creuser pour faire ce type d'agriculture-là. Parce que plus tu descends, plus il peut y avoir de la chaleur. Puis je veux dire, c'est pas une chaleur que tu induis toi-même. C'est une chaleur qui est présente là. Il te reste à mettre de la lumière là, puis mettre de l'eau une fois de temps en temps. Puis,
une question d'espace aussi, par exemple.
C'est ça, mais je veux dire, t'en as pratiquement plus. Là, regarde les villes. Sauf qu'en dessous, il y en a vraiment de l'espace.
Ouais.
C'est à se demander si à un moment donné, les villes ne se bâtiront pas aussi en dessous. Tu sais, Montréal, là, c'est
Dieu, là,
quand t'es
pas en dessous. Rendu loin, là.
Pourquoi?
Hey, mon Dieu, moi, ça m'angoisse, ces affaires-là.
Ça t'angoisse.
Moi, je suis bien sur le sol ici. Je suis bien au premier étage, où tout le monde est à la même place.
Mais tu as déjà été dans le métro de Montréal?
Ben oui, je suis déjà allée dans le métro, mais non, je suis pas des endroits
où je suis
confortable. Non, je suis jamais allée à Las Vegas.
À Las Vegas, là, à un moment donné, t'as plus l'impression que t'es dans un hôtel. Tu te promènes, là, puis là, tu visites les boutiques. Là. Moi, j'avais visité une boutique de montres. Là. Il y avait quatre... Non, c'est pas vrai. Mettons, il y avait une dizaine de montres seulement dans la boutique. La boutique, c'était à peu près 50 pieds par 50 pieds, puis il y avait une quinzaine de montres, mettons.
OK.
Puis là, moi, je dis à la fille, tabarouette, vous devez en vendre pas beaucoup des montres. Elle dit, on en fait à peu près 10-15 par semaine. Genre, ah, ouais, OK. Là, je regarde les montres. Et 600 000. Oh, 1,2 million. Puis tu sors de là, puis là, tu as l'impression que tu marches dans la rue, tellement que c'est gros, que c'est grand.
Mais c'est sous terre. C'est...
Non, non, c'est dans un hôtel, mais c'est qu'à un moment donné, tu le sais que tu rentres dans un hôtel au départ, mais une fois que tu es dedans. C'est, t'as l'impression que tu marches dans la rue, puis les décors, là, je veux dire, il y a des toiles même au plafond. Là.
Oh, ouais.
Fait que ça peut être, je sais pas, moi, je me rappelle pas du nom de l'hôtel, mais tu marches, puis c'est comme un ciel, c'est un ciel bleu, là. Un ciel bleu avec des nuages au travers. Puis t'as vraiment l'impression que t'es dehors. Là.
On dirait que je suis conservatrice au niveau du développement. Je me rends compte de plus en plus que, je sais pas, je suis très...
Une vieille fille.
Peut-être, je sais pas. J'ai toujours pensé que j'étais bien pour l'évolution, moi, là, pour l'avancer. Puis des fois, je suis comme, oh, ça va trop vite, là.
Ouais.
Il me semble qu'on est bien que nos arbres.
Plus
tout
tu vieillis,
va bien.
Plus tu vieillis, plus les affaires, tu comprends pas, là.
Ouais.
Tu sais, comme les gens qui parlent à voix haute avec leur téléphone.
Ah non, mais ça,
qui
là,
est sur le speaker.
Ça, ça me fâche. Non, non. Mais ça, il y a un côté culturel à nos habitudes aussi, par exemple.
Un côté culturel... à nos habitudes de parler téléphone mêlé, mettons, à l'épicerie. Là.
Ben absolument.
Raconte.
Là, tu veux que je développe. Et là, ça va être touché. Là. On rentre dans un sujet touché.
Moi, je pense que c'est un phénomène qui vient d'ailleurs. Je sais pas
ben absolument,
d'où
il
est
là,
la source.
Mon point.
Parce que je vois des migrants arriver
absolument,
ici.
Absolument, qui font ça. Bon, on reproduit
ça. Fait que là, les Blancs arrivent. Et, on a le droit de faire ça.
Mais c'est exactement ça, mon point.
Mais en quoi, moi, j'ai le goût de savoir, tu sais, que tu parles avec ta femme puis ta liste d'épicerie pendant que moi, je fais mon épicerie.
Puis souvent, c'est dans des moments, tu sais, super paisibles. Genre, t'es dans un parc, mettons, tranquille, là, puis comme tout va bien, tu lis ton livre, là, tu sais, tu veux la paix puis regarder le soleil tranquille. Puis ben, il y a quelqu'un qui arrive puis qui jase puis qui crée une conversation à côté de toi. Les gens ont plus de... En fait, ça va fitter avec la conversation qu'on va avoir avec Paul Lévesque tantôt, l'individualisme.
Ah, c'est ça, la conversation?
J'ai l'impression que maintenant, on vit vraiment dans notre petite bulle pour notre propre personne sans penser à la communauté puis aux gens autour de nous. Puis ces actions-là, que je méprise en passant, font partie un peu de l'individualisme, j'ai l'impression.
Tu sais, quand j'ai passé un petit peu de temps à New York, je voyais les Blacks dans le temps avec leur ghetto blaster. Puis ils passaient dans la rue, puis c'était comme une gang, là, 10, 15, 20. Ils étaient tous habillés vraiment à mode. Ils étaient très stylés, les grosses lunettes. Puis il y avait le ghetto blaster, puis c'était comme leur musique à eux, puis ils se promenaient, puis il y avait bien du bon sens.
Ouais.
Mais ça, j'ai jamais vu ce phénomène-là arriver au Québec.
Là, tu parles-tu de comme le speaker, là, genre sur l'épaule quasiment? Là,
le ghetto blaster.
Mais c'est ça, je connais pas. Hein?
Tape-le sur Google.
OK, je vais taper, c'est juste qu'on se comprenne comme du monde. Là.
On vous dit que ce serait le César Palace, ça se peut, Jean-Dan.
Ghetto, oh mon Dieu, OK, oui, c'est carrément ça, c'est la caisse de son. Là.
Fait que les gars, ils se promenaient en gang avec leur musique, puis je veux dire, t'es senti arriver de loin.
Ouais.
J'ai l'impression que le même phénomène avec le cellulaire est apparu.
Absolument.
Par la suite. C'est comme l'autre jour, j'étais au métro à côté de chez nous, à Val-Bélair, puis le gars écoutait sa musique à lui, là, dans sa poche. Fait qu'il avait son cellulaire sur Spotify, puis il écoutait sa musique en faisant son épicerie.
Pas d'écouteurs.
Ça va, man. Tes écouteurs sont où? T'es fait voler?
Le monde pense tellement pas à ce qu'il y a autour d'eux, là. Moi, c'est les gens qui sont, mettons, à l'épicerie puis qui FaceTime. « Hey, salut, c'est-tu bien cette sorte de poulet-là? »
Ça me dérange pas.
Ah, moi, ça me tape ses
mains. Parce que ça, c'est éphémère. C'est éphémère. Tu sais, ça vit puis ça meurt.
Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais quand même, mais tes écouteurs au col, le téléphone appelle. Tu sais, le téléphone, c'est encore possible. On dirait maintenant qu'on vit juste sur le vidéo, là. Mais juste parler au téléphone de vive voix, c'est encore une possibilité, là.
Dans le, on me dit que dans le transport en commun, il y a régulièrement des gens qui parlent main libre avec leur cellulaire.
C'est cacophonique. La paix d'esprit, mettons.
Personne là. Qu'est-ce qu'on peut faire à la gang pour les rendre mal à l'aise?
Je sais pas, hein. On dirait que je ferais pareil. J'essaierais de parler plus fort.
Quelqu'un qui me dit, t'as juste à passer à côté puis dire, comment ça va tes hémorroïdes?
Ouais. Moi, je m'essayerais pas, mettons. Il y a beaucoup de réactions sur le texto.
Christian qui dit quoi? Ça revient à ce que je dis souvent, les codes sociaux disparus avec l'individualisme qui mine la cohésion sociale.
C'est intéressant, par exemple, les codes sociaux. Je vais me prendre une note, je veux vraiment qu'on en jase avec Paul tantôt.
C'est peut-être moi qui ai ma mère aussi, mais je les écoute parler, Audrey, puis des fois, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien à dire.
Mais non, c'est comme jaser pour jaser,
de longs moments de silence. Tu sais, quand ça fait 30 secondes là, que tu es à l'épicerie, là, puis la personne au bout du fil, elle ne te parle pas,
ouais.
Tu serais temps de raccrocher pour accumuler comme des phrases.
Mais ça, c'est quelque chose que je comprends pas non plus, mais j'ai l'impression que c'est le besoin d'être connecté. J'ai connu quelqu'un qui faisait des... Quand TikTok a commencé, là, qui faisait des live TikTok. Puis il traînait le live. C'était pas pertinent, là, c'était pas le téléphone à côté, puis il y a quelque chose à régler ou à discuter ou à partager. Ou... C'était vraiment juste comme si, manque d'accompagnement, cette personne-là partait un live TikTok. Puis se promenait, puis vivait sa vie, tu comprends? Puis je me souviens, on s'était croisés, puis hey, est-ce que je suis en live TikTok? Puis j'étais comme, puis moi, je suis en train de te parler, puis je suis sur ton live TikTok aussi, dans le fond. Ça, le live faisait partie de son quotidien, ouais. Comme si c'est un besoin d'être tout le temps accompagné.
Il y a quelqu'un qui dit « Salut, au restaurant, mes parents faisaient ça, j'ai jamais été aussi gêné au restaurant. »
Mais je comprends. J'ai pas embarqué dans cette habitude-là, on dirait. Par exemple, j'ai le défaut des messages vocaux en public.
Non, mais toi, t'as le défaut des messages vocaux.
Au point, pas juste tu vas me dire, là, mais je veux dire, je les fais pas, mettons, tout seul dans mon char.
L'autre jour, je t'ai torturé. J'ai écouté tes propres messages en mode
c'était
rapide.
Pas le fun. Non, oui. Hein? Puis devant moi, t'écoutais en plus, c'est vraiment désagréable.
Je me suis dit, je vais faire subir ce que tu me fais subir.
C'est épouvantable. Hey, en passant, bienvenue dans l'Open Mic. On est rentré dans la grosse jasette. Vous avez quelque chose à nous dire? C'est le 418-971-1021-780-1021, c'est le numéro de téléphone. Et il y a la belle communauté Twitch qui est déjà installée, twitch.tv/BLVD/FM.
14 degrés sur Québec pour aujourd'hui. Ça va être ça. C'est plein soleil. Peut-être des nuages qui arriveront vers la fin de la journée, maximum de 20 pour aujourd'hui. Ce soir, cette nuit, partiellement nuageux, minimum de 11 degrés. Demain, mercredi, ce sera généralement nuageux, maximum de 18. Seulement en soirée, il y aura des probabilités d'averse à 60%, minimum de 13. Jeudi, c'est ensoleillé, maximum de 19. Et vendredi, ce sera des nuages avec un maximum de 20 degrés. Puis pour l'instant, le week-end s'annonce très beau. Très, très beau, samedi, dimanche. Je vois pas de pluie à l'horizon. Donc, on va bâtir notre semaine là-dessus, les amis.
C'est frais.
C'est frais.
Ça fait du bien.
418-971-1021, 418-971-1021. Si vous avez des choses à nous dire, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Corias, lendemain sur les ondes de Boulevard. On vient tout de suite après.
Yeah.
Ah boy, je vais reprendre les paroles d'Audrey tantôt qui était avec moi en train de préparer le show. Elle dit, je sais pas toi Marceau si c'est comme moi, mais quand Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, vient nous voir, c'est comme des belles vacances.
C'est vrai, j'ai dit
on jase, on relaxe, on s'amuse, on parle de la vie. Salut Paul Lévesque!
Ben bonjour, toujours un bonheur d'être avec vous. Puis en attendant, j'entendais les éclats de rire d'Audrey.
Oui.
C'est tellement ensoleillé, je trouve. Hein?
Audrey est une fille foncièrement heureuse.
Ben, en tout cas, c'est ce qui se dégage.
Puis des fois, elle a tellement l'air heureuse que je me dis, c'est... pourquoi, tu sais? Pourquoi moi, je suis pas...
Mon Dieu, on a le tourmenté de l'autre côté.
Pourquoi moi, je suis pas comme elle?
Mon Dieu!
Tout le temps heureuse. Tout le temps... En plus, t'as un beau public, Audrey. Là. Elle jase, puis elle rit tout le temps. Fait que c'est le fun, ça m'encourage à dire des niaiseries.
Oui, il faut pas t'ailles beaucoup de public pour laisser aller tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Ouais, exact.
Sans filtre, je dirais.
Paul Lévesque, décris-toi un peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Pas grand-chose. Ben, en fait... Moi,
toi,
pense...
t'es pas grand-chose.
Ben... En fait, je donne à peu près 250 conférences par année à tout le monde qui a envie de parler du comportement. Le volet entreprise a pris beaucoup d'essor depuis quelques années. Je suis consultante, je suis chroniqueuse radio-télé, je suis auteure, je suis blogueuse, je suis terrain. J'ai envie d'insister là-dessus parce que, tu sais, des fois, quand tu donnes autant de conférences, tu pourrais avoir envie de t'élever au-dessus de la masse et dire oh, « je suis si bonne et si belle et si capable ». Mais moi, je veux garder le terrain. Donc, je travaille avec les jeunes de la rue.
Ouais.
Je travaille encore des projets de terrain où on a à s'investir avec c'est pas scripté d'avance. On part dans l'inconnu, puis tu sais, je travaille avec la prévention du suicide. Je me mets en danger encore. Et ça me fait, ça me donne le ratio de c'est quoi la vraie vie terrain. Fait que quand moi, je m'en vais donner une conférence devant 500 personnes qui sont toutes, je sais pas moi, des gens en service de garde, qui me disent « Ouais, ouais, mais tu sais plus c'est quoi la jeunesse d'aujourd'hui? » Je fais « T'es un petit peu. » Moi, hier, j'étais dans la rue. Là. Mm. Fait que je le sais.
Ouais.
Tu sais, on peut pas me prendre de haut en disant « C'est de la théorie. »
Oui, puis il y a quelque chose qui m'avait fait bien rire, tu sais, quelques années d'ailleurs, je t'en avais fait part. Tu connais-tu le billet de proximité?
Le billet de proximité.
Ouais, c'est que tu es tellement proche des gens, des fois que tu réalises pas l'ampleur que ces gens-là peuvent avoir sur les autres personnes.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Tu sais, je vais te donner un exemple.
Là, t'as pas se coller ça vite. Là.
C'est un gros exemple que je peux te donner. Tu sais, je parlais avec Marc Dupré, il y a peut-être un mois et demi. Là. Je l'ai reçu dans Marceau Soir. Puis j'y ai dit, tu sais, tu te rendais-tu compte que tu étais le gendre de l'artiste, une des artistes les plus populaires au monde. Il me dit, Yann, c'était ma belle-mère. Mm-hmm. Tu sais, il me l'a pas dit. Il m'a même pas dit, toi, ta belle-mère, elle te fatigue-tu des fois? Mais il m'a dit, Yann, c'était ma belle-mère. Pour lui, c'était pas Céline Dion, l'artiste international, parce que son billet de proximité faisait en sorte que c'était pas, tu sais, c'était juste sa belle-mère. Là.
Oui, puis elle voyait dans des conditions que les autres voient pas.
Exact. Fait qu'il y avait des discussions autour de la table, puis il jasait avec sa belle-mère. Fait que ça, c'est le billet de proximité. Puis moi, j'ai eu ce billet-là longtemps avec toi de proximité. Puis quand j'avais été dans une garderie, puis c'est là que je te l'avais raconté, j'ai été à la garderie de mes gars. Et là, les éducatrices avaient eu une conférence la veille avec une conférencière exceptionnelle. On me l'avait présentée comme une conférencière internationale. La fille, elle a donné des super de bons trucs. Puis là, il y avait même du matériel, on dit-tu du matériel didactique?
Oui.
Mais bref, il y avait même du matériel didactique de cette conférencière-là qui avait été rencontrée. Je dis, Colin, hey, c'est dommage intéressant. Moi, j'aimerais peut-être la recevoir en onde, cette conférencière-là. Puis elle me dit, oui, son nom, c'est Paul Lévesque.
Puis t'es comme moi, je la connais un peu.
Chris, j'étais avec hier.
Ah, c'est
elle me disait que j'étais niaiseux.
Oh, mais c'était justifié. Moi, je dis juste des choses justifiées.
Ben oui, exactement. OK. Hey, aujourd'hui, on a un gros sujet, Audrey.
Oui, bien, on a parlé un peu d'entrée de jeu tantôt, puis je trouve ça intéressant parce que les auditeurs ont déjà des points que je trouve bons puis que je veux qu'on aborde. On parle d'individualisme. On tend vers cette ère-là de plus en plus. Pourtant, c'est pas si nouveau que ça, mais j'ai l'impression qu'on le ressent plus. Puis j'ai le goût de dire, le but de la conversation, c'est de comprendre pourquoi, comment on s'adapte à ça, c'est-tu vraiment ce qu'on veut? Tu sais, ça sort d'où aussi, cette ère-là d'individualisme? Puis c'est un sujet que tu as proposé, en fait, Paul, qui colle vraiment un peu à l'actualité, puis ce qu'on peut ressentir un peu au day-to-day. Absolument. Fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
Oui, puis je suis partie de l'extrême pour réfléchir, c'est-à-dire le réconfort. Mm. Parce que tout humain a besoin de chaleur, on s'en est aperçu durant la pandémie, et un des trucs que j'ai regardé puis qui a initié, parce que quand je vous envoie des sujets, c'est que j'ai envie d'en parler. Je trouve ça le fun parce que vous êtes toujours tellement intéressés qu'on finit pas par savoir lequel on va parler. Mais depuis que tu es là, Audrey, je sais d'avance mon sujet, ce qui n'était pas le cas quand j'étais toute seule.
Hey, je mets des pouces.
Oui.
Je mets des pouces sur nos conversations. Je m'implique quand même.
Tu t'impliques plus, oui. Bien, j'ai vu une vidéo... Non, mais on peut faire de l'ignorance.
Oui, hein, c'est ça.
Des fois, moi, c'est une façon de sevrer ce qui allait sortir.
Je vais apprendre.
C'est mon filtre. Mes trois passoires de Socrate, tu comprends?
Je m'excuserai, juste 5 heures en ondes par jour.
J'ai regardé une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. C'est quelqu'un qui décide de valider comment les gens sont individualistes ou sont capables du réconfort, de prendre soin de l'autre.
OK.
Bon. Et ils ont décidé de mettre quelqu'un, un artiste, là, tu sais, quelqu'un, ben, je veux dire, un comédien, qui est déguisé en itinérant et qui fait une crise cardiaque. Bien sûr, il va faire à semblant. Et ça a pris 1h30 avant que quelqu'un lui apporte un soutien. Et puis même sur la vidéo, tu vois, là, tu sais, ils ont écourté, là, ils ont mis juste les meilleurs bouts. Il y a quelqu'un qui donne même des coups de pied dessus pour le tasser parce qu'il est dans le milieu de la place puis il dérange. C'est épouvantable.
Ouais, il y a plusieurs tests qui sont faits sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est une nouvelle manne là, pour attirer le regard, pour attirer les vues, mais des fois, ça peut être un enfant qui se fait enlever sur un trottoir. Puis là, on filme la réaction des gens, des passants. Puis c'est inquiétant de voir qu'il y en a qui regardent leur cellulaire, voient l'enfant se faire enlever, crier, puis continuent leur chemin en regardant sur leur cellulaire. Ou quelqu'un, un aveugle, qui
a
sa canne, qui essaie de descendre les marches, puis il est un peu incertain. Les gens passent à côté. Là, écoute, la canne blanche est là. C'est assez évident que le gars ne voit pas. Là. Il y a des grosses lunettes d'en face. Puis les gens, ils ne lui demandent pas s'ils peuvent l'aider. Fait qu'il y en a beaucoup de ce type de vidéos-là qui démontrent à quel point les gens sont devenus individuels. Ouais.
Puis je pars du principe qu'on a tous besoin les uns des autres. On a tous besoin, un jour ou l'autre, que tu sois le gros troqueur dans ta vanne qui pèse 300 livres, que tu sois la petite madame de 80 ans toute frêle, peu importe qui tu es, que tu sois l'ado, on a tous un jour besoin de quelqu'un. Et comme on est devenu très individualiste, on ne sait plus non plus comment faire. Fait que comme on ne sait plus comment faire, on s'abstient. Par peur de ne pas savoir quoi dire, par peur... Souvent, c'est la peur qui nous empêche de faire quelque chose. La peur d'avoir l'air fou, la peur d'être pris nous-mêmes dans ce piège-là. Hey, j'ai déjà habité dans un jumelé. Je ne donnerai pas l'adresse parce que mon voisin, éminemment... les murs étaient très légers ou en tout cas, ils étaient très puissants. Violence conjugale. Et j'ai dû appeler un jour les policiers. Et les policiers ont fait qu'une petite tape ses doigts parce que quand ils sont arrivés, ils n'ont pas eu ce qu'il fallait pour faire une intervention complète. Et madame n'a pas voulu porter plainte. Et ça s'est retourné contre moi. C'est-à-dire que le monsieur m'a fait des menaces puis a été très violent en me disant « Toi, ma petite Chris, t'es mieux de fermer ta gueule parce que la prochaine fois, c'est toi qui en manges une. » Ben, j'étais mieux de pas me manquer. Parce que, mais je me relève, tu verras plus clair. T'sais, et souvent dans ma vie, puis moi, je me suis déjà fait attaquer au couteau, t'sais, j'ai vécu des choses parce que je me mets en danger, fait que c'est sûr. Puis ce qui nous protège, c'est ne pas démontrer ta peur. Puis quand on comprend ça, on est peut-être plus investi dans notre société. C'est-à-dire, c'est comme c'est la peur qui t'empêche d'agir, si tu arrêtes d'avoir peur ou de ne pas le démontrer, tu es peut-être plus en mesure de poser des gestes. Puis là, je parle de grosses choses, mais des fois, écoute, moi, j'ai été malade dans ma vie. Le matin, les gens me demandaient « Comment tu vas, Paul? » Moi, je dis toujours « Ça va bien » parce que je pense que j'ai le bonheur facile, mais dans ce temps-là, ça n'allait pas. Fait, comme je suis aussi dans la vérité, je disais « Ça va pas. » Ben, croyez-le ou pas, les gens passaient droite.
C'est fou, ça. Hein?
Bonne journée, ma belle.
Pose pas la question si tu veux pas le savoir.
Mais les gens restent en surface. En même temps, les gens écoutent même pas ta réponse. Ils sont tellement habitués de se faire dire que ça va bien que tu dis, ouais, moi aussi, ça va bien.
T'as tellement raison. La semaine passée, j'ai eu une prise de conscience parce que c'est tellement naturel après le bonjour. J'ai croisé un collègue dans le corridor vers les toilettes. Et la discussion, tu sais, quand elle se poursuit à voix haute parce que t'es déjà plus à même hauteur, c'était comme, ça va, oui, toi, oui, ça va aussi. Puis j'ai vraiment eu cette réflexion-là de tabarnouche, mettons que ça n'avait pas été, je ne l'aurais jamais vu. Là. On était déjà rendu à 3 mètres de dépasser, de différence.
Puis tu ne veux pas le voir jusqu'à ça. Es-tu disposé?
Oui,
juste hier, je souhaitais quasiment que vous preniez cette... Juste hier, j'ai été témoin de gens que je ne connais pas parce que j'étais dans un endroit public, mais tu le tibas et t'attends. Fait que tu ne veux pas écouter, mais autour, t'entends. Et il y a éminemment des gens qui se connaissent, mais pas tant. Là, tu sais, bonjour, je pense qu'ils venaient d'un même milieu de travail, ça faisait un petit bout qu'ils s'étaient vus. Et elle demande des nouvelles, comment tu vas? Et l'autre dit, je suis en traitement de chimiothérapie. Et savez, j'ai entendu là, tel quel dire, ben, regarde, on va parler d'autres choses pour te changer les idées. Et éminemment, la personne qui s'engageait auprès d'elle, en tout cas de mon décodage, avait peut-être pas besoin de ça, avait peut-être besoin juste d'être accueillie. Écoutez. Est-ce qu'on prend le temps de se fermer la boîte puis d'écouter, d'entendre? Souvent, on va écouter pour relancer. On va écouter pour faire le voisin gonflable. Tu sais, est-ce qu'on écoute ou on écoute préoccupé par le conseil? Qu'est-ce que je vais donner comme conseil? Des fois, on n'accueille pas l'autre juste parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire. Dis rien. Fais juste écouter. Fais juste demander à l'autre. Tu sais, même moi, si je suis intervenante depuis tant d'années, je ne peux pas toujours décoder ce que l'autre a besoin. Ben, je vais lui demander. Yannick, de quoi tu as besoin? Puis ça, Yannick, à travers tous ses défauts, il y a quelque chose d'immensément grand, c'est qu'il écoute pour vrai. Ça, là, c'est une des qualités ultimes, puis j'ai eu à le tester plusieurs fois. Puis tu as une écoute absolue et dans ton peu de mots, parce que dans la vraie vie, t'es pas comme à radio, t'es un homme de peu de mots. Mais quand tu
j'envoie
dis,
des pouces.
Quand tu dis, ah, moi les pouces ça m'insulte
assez. Hey, on peut s'en parler.
Ah, moi les pouces.
Je suis contente que tu dises ça.
Ça les pouces, ça, moi c'est comme une claque ça y est. Je sais que c'est pas ça. Mais puis c'est juste les vieux qui font des pouces.
Tu t'en as rien à foutre, voyons.
Oui.
Bref.
Okay. Oui, bref. Ben tout ça, j'ai eu à le tester avec Yannick. Puis, tu sais, un jour, il m'a ramassé parce que j'allais vraiment pas bien. Puis, on était loin, proche de la machine à café, je m'en souviens. Puis, il m'a regardé, puis il a dit, « De quoi t'as besoin? » Il m'a dit ça. C'était parfait. Puis là, il m'a donné des suggestions, tu sais, par après, « As-tu besoin d'aller prendre un café? As-tu besoin? » Mais il m'a demandé ce que j'avais besoin. Et souvent, c'est la meilleure chose à faire. Des fois, on dit, on est piégé, je suis pas intervenant, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Demande à l'autre. Puis l'autre, ça se peut qu'il dise, je le sais pas. Mm. Ben, c'est pas grave. Tu le sais pas, je vais rester près de toi. Puis juste de sentir que quelqu'un est là, puis peut-être j'ai juste pas besoin de parler.
Mais on vit mal avec le silence, avec l'espèce de malaise. Puis ça, je trouve que ça fait très, très notre époque. T'sais, on est tellement surstimulés partout. On peut parler de technologie, mais par notre travail, par notre environnement, on est tellement surstimulés qu'à la base, j'ai le sentiment que même sans parler de ce genre de situation-là, on n'est pas bien dans un silence. On vit des malaises rapidement. On a besoin, justement, qu'il se passe toujours quelque chose. Ça fait que ça devient dur d'être attentif, tout simplement.
Ouais. Oui. Puis le sujet avec Paul aujourd'hui, c'est l'individualisme. T'sais, pourquoi on en est rendu là, à l'ère de l'individualisme. Mais je jasais avec quelqu'un que j'aime bien qui m'a dit, j'ai perdu ma meilleure amie d'enfance. Puis là, j'ai dit, mais pourquoi? T'sais? Ils ne sont plus capables de se comprendre. Elle, de son côté, sa meilleure amie d'enfance, est tannée de tout le négatif qui l'entoure. Donc, elle a décidé de faire le tri, ce qui fait en sorte que les gens qui sont toujours tristes, elle peut peut-être les écouter, mais elle va passer très rapidement à d'autres choses parce qu'elle veut du positif dans sa vie. Elle veut continuer à progresser. Elle avait une période assez, assez stressante. Là. C'était une infirmière qui a décidé de devenir super infirmière. Donc là, elle avait comme des cours supplémentaires à faire qui étaient très demandants. Donc, elle a, malheureusement pour elle, ou peut-être heureusement pour elle, rejeté des gens autour d'elle qui tiraient peut-être un peu trop de jus. Puis moi, j'ai accueilli le commentaire de cette jeune femme-là qui me dit « Yann, j'ai perdu ma meilleure amie d'enfance. » Puis je me suis dit « Mais comment l'autre est devenu comme ça, tu sais? » À dire « OK, moi j'en ai assez dans la vie, je souffre trop à cause du malheur des autres, je vais m'éloigner des gens qui sont, à mes yeux à moi, négatifs. » Puis je me dis « Mais est-ce que c'est pas ça maintenant vers ce à quoi tout le monde veut aller, c'est-à-dire d'avoir un espace de vie peut-être un peu plus joyeux puis que le malheur des uns, le malheur des autres, à un moment donné, il faut que tu te délestes de ça. » Je dis pas qu'il faut être ça. Je dis juste que quand j'ai accueilli mon ami qui me disait « J'ai perdu ma meilleure amie », j'ai essayé de comprendre l'autre. Puis je peux comprendre des fois que dans une certaine phase de vie, quand toi, t'en as jusque-là, d'accueillir d'autres mondes qui vont pas, c'est comme « too much ». Fait que tu veux tout simplement te protéger, puis tu vas te fier sur ton cercle à toi, c'est-à-dire tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, tes parents, tes amis proches qui sont peut-être positifs, en te disant « regarde, je vais passer 2 ans comme ça, je vais sortir du marasme dans lequel je suis, je vais finir mon cours que je vais faire, puis quand je deviendrai super infirmière, ben là, j'irai voir les amis qui vont peut-être un peu moins bien. » Ça peut être des phases aussi. Mais c'est juste que les gens qui sont devenus très individualistes, c'est pas nécessairement des gens méchants à mes yeux.
Mais non.
C'est juste des gens qui ont pris des décisions parce qu'ils sont peut-être trop sensibles.
Ben, t'as tellement d'affaires dans ce que t'as dit. Bon, premièrement, on vit dans...
C'est-tu moi qui ai dit ça?
Là, t'as tellement d'affaires dans tout ce que t'as dit.
Bravo. C'est Audrey qui m'a écrit ça.
Hey, on est beaucoup en train de le recenser aujourd'hui, ça va faire du bien. Bien, il y a beaucoup de choses. Premièrement, on se pose la question, dans notre société, est-ce qu'on est encore capable de supporter les malaises? Est-ce qu'on est trop dans l'instantanéité de vouloir justement aller bien vite et tout le temps? Quand quelqu'un me consulte et que ça fait 2 mois qu'il est en deuil puis qu'il me dit « Paul, plus personne veut m'entendre parler de mon deuil », je me dis « On est où? » Non, mais...
Je pensais que t'allais dire « Je les comprends!
» Non, mais... Puis l'autre chose, c'est super infirmière, là. Tu sais, si ton amie, on connaît pas, mais... Elle veut se protéger, minamment. C'est un moyen de protection.
Moi, c'est ce que je comprends de son geste, parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré quelques fois dans ma vie. Elle était foncièrement humaine.
Oui.
Puis à un moment donné, je veux pas...
Pour
sa survie, il faut qu'elle se concentre sur ses affaires. Fait qu'elle a comme rejeté des gens qu'elle aimait en disant, garde, organise-toi pour que ça aille bien dans ta vie. Là. Moi, mon bateau, là, il est en train de couler. Là. Je peux plus prendre d'eau. Là.
Mais l'autre question qu'on peut se poser, puis le but, c'est de se poser des questions pour que les gens... les auditeurs s'en posent aussi, parce que souvent, poser des questions, c'est le début d'évoluer.
Oui.
Est-ce qu'on peut se demander si cette personne-là, qui est assurément empathique, puisqu'elle choisit un métier d'empathie, assurément sensible pour décoder les gens, est-ce qu'elle a été capable de mettre ses limites au fur et à mesure? Parce que ce que je remarque aussi, c'est que quand on n'est pas capable de mettre ses limites au fur et à mesure, on peut avoir envie de fuir. C'est-à-dire que le bateau est rendu justement tellement plein de trous que la seule façon de ne pas couler, c'est de fuir. Mais est-ce que lors du premier petit trou dans le bateau, elle a été capable d'envisager de dire à cette personne-là, lorsqu'on est ensemble au resto et qu'on discute, ben je ne suis pas à l'aise dans telle chose? Ou est-ce qu'on est capable de dire les choses ou on les accumule parce qu'on a peur, encore une fois, de blesser l'autre? Puis à un moment donné, c'est devenu tellement gros, c'est devenu un impasse que la seule façon de s'en sortir, c'est de partir. Tu sais, il y a des gens qui me disent, moi, je me chicane jamais. Bon, peut-être qu'ils identifient une discussion comme une chicane, mais c'est parce que si tu n'es pas capable au fur et à mesure de nommer les choses, est-ce que ça se peut qu'un jour, tu aies juste envie de fuir parce que tu n'as pas été capable? Mais des fois, quitter une relation, ça peut être une façon aussi de s'en sortir. Des fois, les relations sont toxiques. Mais la toxicité, est-ce qu'elle est venue en cours de route parce que j'ai pas pu mettre mes limites? Ben, en tout cas, on se pose ces questions-là. Puis l'autre question que je me pose, c'est cette personne-là s'en va super infirmière. Il faut qu'elle soit super cuirassée parce qu'elle n'y arrivera pas. Tu comprends? En tout cas, je me pose toutes ces questions-là, mais tu sais, moi, je pense que les humains sont foncièrement bons. Les vrais méchants, là, au pourrata, les psychopathes, les sociopathes, les narcissiques, les gens avec une intention vilaine, il n'y en a pas tant. Je pense qu'il y a des gens maladroits.
Pourtant, toutes les filles que j'ai rencontrées qui me parlaient de leur ex, c'était des narcissiques. Là. Tu me dis qu'il n'y en a pas tant, quoi?
Ah, ça m'énerve, là.
Bon, mais on pourra en faire un autre sujet de discussion, parce que là, tu viens d'ouvrir avec une grosse charrue.
Parce que l'individualisme, Paul, ça va à l'encontre de la survie de l'humanité.
Oui.
L'humanité s'est bâtie avec des êtres qui étaient sociaux, qui pouvaient s'entraider les uns les autres. Tu sais, dans des camps, il y avait les femmes qui étaient là, qui s'entraidaient entre elles pour les enfants, pour la nourriture, pour les vêtements et tout ça. Puis les gars, eux autres, ils étaient ensemble, puis ils allaient chasser en troupeau aussi pour essayer de ramener la nourriture au camp. De voir qu'en 2024, il y a de plus en plus de gens qui sont individualistes. En passant, si vous êtes individualiste, là, je viens de vous le dire, moi, je ne vous juge pas là-dessus. Vous devez avoir vos propres raisons. Mais je me dis, de quoi ça va avoir de l'air dans 200 ans, dans 300 ans, si on est tous à nos affaires puis on n'est plus capable de s'aider les uns les autres?
Bien, tu sais, il y a des traits de personnalité qui fait qu'il y a des gens qui sont peut-être plus caverneux, qui ont moins besoin de socialiser. Puis ça, c'est un trait de personnalité qui est tout à fait opportun, là, je veux dire, t'es pas... Mais l'individualiste, c'est être capable de sortir de sa caverne le moment venu aussi. Puis, est-ce que vous connaissez l'histoire du hérisson?
Vas-y donc.
Vas-y.
OK. Non, mais c'est parce que ça représente tellement, tu dis, la survie de l'humanité, ouais. Tu sais, la survie sociale. Tu sais, il y a plusieurs années, quand les petits hérissons sont arrivés au Canada, bien, ils sont arrivés durant le mois de juillet. Il faisait chaud, tout allait bien. Mais quand est arrivé l'hiver, il faisait fret. Ça, c'était encore plus froid que froid, tu sais. Fait qu'ils ont dû se coller pour se réchauffer. Mais, comme ils sont des hérissons, ils se sont tellement blessés qu'ils se sont dit, on se colle plus. Fini. Ben, ils sont tous morts. Ils ont été exterminés. Et plusieurs années plus tard, quand il y a d'autres hérissons qui ont décidé de venir s'installer, ben, quand est arrivé l'hiver, ils se sont dit, on n'a pas le choix, c'est une question de survie. Donc, on va apprendre à se coller malgré nos épines, malgré nos petits piquants d'hérissons. Et je pense que c'est ça, vivre en société.
C'est une belle image.
Il va y avoir des malaises. On va se blesser des fois, un peu plus, un peu moins, tu comprends? Mais plus les gens ont un mécanisme d'adaptation souple, plus on est capable de vivre avec les autres.
Mais on dirait que j'ai l'impression que cet individualisme-là, bon, a pris beaucoup de place dans les dernières années. Tantôt, on a des auditeurs qui nous soumettaient à la pandémie qui a le dos large, là, mais il y a des gens qui nous disaient on s'est tellement recentrés.
Mais c'est vrai, puis les habiletés sociales se sont un petit peu égalées aussi.
Aussi, là, je pense qu'il y a une belle recette là-dedans là, dans les dernières années, mais est-ce que ça se peut qu'on soit maladroit? Parce que j'ai l'impression que l'individualisme, des fois, part d'une bonne place. Puis je m'explique explique. On nous dit qu'il faut apprendre à se recentrer sur nous, à écouter nos propres besoins, pour être capable de faire attention à notre santé mentale, par exemple. On nous parle tellement de santé mentale dans les dernières années. Tu sais, qu'il faut apprendre à s'écouter, notre instinct, justement, à tasser un peu le mauvais, puis à vivre pour soi, parce que c'est ta vie, t'en as juste une, hein? Tu sais, il faut que tu la vives comme il faut. Que j'ai le sentiment qu'en voulant bien faire, on fait mal.
Ben, écoute, des fois, c'est mal adapté. C'est-à-dire qu'on utilise quelque chose, des fois, pour s'excuser. C'est-à-dire que je pense qu'on a du pouvoir que sur soi et de l'influence sur l'autre. Une chance, parce qu'on serait tous hitlériens, là, si on pouvait... Mais l'idée là-dedans, c'est mélangeons pas les choses. Tu sais, quand les parents parlent d'éducation bienveillante, ça veut pas dire qu'il faut plus avoir de règles. Tu comprends? Quand on parle de prendre soin de soi, ça ne veut pas dire que les autres n'existent plus. Fait que des fois, on part sur un élément, puis il prend toute la place, la nuance. Tu sais, c'est pas tous les gars, c'est pas toutes les femmes, c'est pas toujours la bienveillance, c'est pas toujours soi. C'est, oui, je pense qu'on est la première personne la plus importante de notre vie, mais les autres existent aussi, tu sais. Puis je crois que on est peut-être un peu extrémiste. D'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux. Si tu dis quelque chose, les gens le prennent pas les gens. Certaines personnes vont le prendre personnel. Mm-hmm. Puis, vous le voyez, ces réseaux sociaux, hein? Si tu dis un mot plus haut que l'autre, la chicane pogne, puis le manque de nuances. Des fois, c'est un peu extrémiste. Donc,
je comprends, mais des fois, à trop donner de nuances, on n'en finit plus. Ben, je pense que quand tu dis une phrase pour décrire une situation, si tu mets 25 nuances au travers parce que tu es comme gêné de heurter certaines sensibilités, ta phrase ne veut plus absolument rien dire.
Tu vois, ça, c'est extrémiste.
Ouais, parce que c'est moi, un propos extrémiste, non, mais je...
dans le sens que...
Moi, je suis très nuancée comme personne, mais okay. Là-dessus, on ne se ressemble pas.
Okay.
Puis j'arrive à comprendre le pire ton point, parce que c'est vrai qu'à padder, à un moment donné, tu perds l'essentiel du message.
Mais on est encore dans le trop. On peut-tu être dans le centre? Mm. On peut-tu dire ce qu'on a besoin de dire? Mais avoir aussi une pensée nuancée veut dire s'ouvrir, pas être dans un corridor très... Puis, nuancé veut dire dans la pensée aussi, veut pas dire juste dans les propos. Mais c'est toujours une question d'équilibre. Mmh. Et on est porté à mal comprendre celui qui est très différent de nous. Un lent ne comprend pas un vite. Un droit au but ne comprend pas quelqu'un qui prend des détours. Puis je pense que vivre en société, c'est apprendre. Apprendre les différences, puis de ne pas s'insurger à chaque fois que quelqu'un est différent de nous aussi.
Paul Lévesque, les gens qui vont
avec... Là, tu mets mon nom complet, j'ai
qui vont avec
peur.
Toi en consultation, c'est des trucs, je ne sais pas ça. C'est okay. Les gens qui vont avec toi en consultation, est-ce que tu as l'impression, avec ton analyse de ces gens-là, que l'individualisme a fait en sorte que ça a augmenté des problèmes de santé mentale?
Moi, écoute... Peut-être que beaucoup plus tard, on pourra faire des études exhaustives. Moi, c'est juste des observations. Hein. Je vous avertis, ne partez pas en peur avec ce que je vais dire. Mais l'anxiété est dans le plafond. Et je remarque que depuis, vous allez dire, la pandémie a le dos large, mais ça l'a accentué, justement, la capacité d'être bien avec les autres. Parce qu'on a mis à l'écart, pendant 2 ans, notre capacité de bien vivre avec les autres. Et quand les gens me consultent, c'est qu'ils ont envie d'avancer et de regarder les obstacles. Et une des obstacles actuellement, c'est les habiletés sociales, l'anxiété, la communication qui est faussée. Je dirais pas ça, j'ai peur d'être mal interprétée, les gens sont agressifs, manque de tolérance, la gestion de la frustration est difficile. Pourtant, quand on explique, moi, ce que je remarque personnellement, quand on prend le temps d'expliquer puis que la personne prend le temps d'écouter, ben on avance. T'sais? Mais tout va très vite. Puis je crois qu'on a aussi des moyens qui nous font avancer qui s'appellent les réseaux sociaux, les téléphones et compagnie. mais qui nous empêche de communiquer aussi jusqu'à un certain point.
J'ai-tu... Est-ce que je t'ai coupé la parole? Vas-y.
Hey non, mais pas en tout, parce que tu viens de dire, Paul, quelque chose qui, avec lequel je suis tellement d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a des facilitateurs aussi. Yann, puis moi, tantôt, on riait des messages vocaux. mais j'ai réalisé qu'avec certaines personnes pour qui c'est plus difficile de communiquer, des amis ici et là, les messages vocaux ont cette utilité-là des fois. Je peux t'écouter, je prends le temps de réfléchir, de me poser, je te réponds quelque chose. Fait que vocalement, on a une discussion, on communique, mais j'ai l'impression que des fois, ça amène un côté plus sain à certaines discussions, à certains échanges. Il y a des bons côtés et des mauvais à toutes, là. Moi, j'apprécie beaucoup les discussions face à face, mais il y a des gens pour qui c'est plus difficile, pour qui la confrontation devient automatiquement un sujet, pour qui... C'est drôle, dans ma propre relation de couple, il y a des moments où c'est arrivé dans les dernières années où on échangeait sur des sujets plus touchés par vocaux dans la journée pour se laisser de l'espace, pour que les choses soient bien interprétées. Fait que je sens qu'il y a un peu de positif aussi à travers ça.
Tout est jamais noir, tout est jamais blanc. C'est pour ça que tantôt, je parlais des nuances. Ça dépend comment on l'utilise. Un marteau, là, c'est exceptionnel. Mais si tu t'en donnes des coups dans le front, c'est pas bon. Moi, je pense que c'est pas l'outil le problème, c'est l'humain qu'il y a derrière. C'est comment on utilise. On a plein de possibilités, mais tu peux les utiliser contre toi.
En même temps, un chéri, je te quitte par ce texto, c'est cheap, parce qu'on m'a dit...
Ah, c'est mauvais, ça. Tu hey, là, là!
Ghoster quelqu'un par... Ben, c'est d'où je viens à l'idée que est-ce qu'on est en train, peut-être, de perdre nos habiletés sociales, notre capacité à s'asseoir juste devant quelqu'un et à supporter un malaise, à ne pas être d'accord tout le temps, à supporter un silence. Tu sais, je m'observais moi-même tantôt dans la salle d'attente. Je suis arrivée un petit peu plus tôt parce qu'il n'y avait pas de trafic. Je m'observais, là. J'avais du temps, puis j'étais tout le temps la main dans le sac à dos à dire « Je prends-tu mon téléphone? » On ne sait plus quoi faire avec ce temps-là non plus. On ne sait plus des fois comment l'utiliser toute seule, puis on ne sait plus comment l'utiliser ensemble, ce temps-là.
Oui. Est-ce que, parce qu'on parle de l'individualisme, là, on a parlé des mauvais côtés de l'individualiste, du gars ou de la fille qui pense juste à ses propres affaires puis qui essaie de s'éloigner peut-être un peu du négatif. Y a-t-il des côtés positifs à être individualiste?
Bien... L'individualiste, il faudrait le définir, tu sais.
Elle te regarde avec un œil très attentif.
Oui, j'écoute.
Ben, il faudrait définir l'individualiste. Non, mais se protéger, c'est bon.
Oui.
Avoir du discernement, c'est bon. C'est-à-dire, le discernement, c'est de choisir à quel moment je dois l'être et à quel moment je dois vivre en société.
Okay. Parce que parfois, moi, j'ai l'impression que je peux être perçu comme individualiste. Parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de mettre un filtre, là, sinon ça ne marche plus. Là. Les gens me parlent de choses qui sont hyper importantes à leurs yeux, mais qui, concrètement, dans la vie en général, c'est pas si important que ça. Tu sais, des exemples que je peux te donner sans heurter personne. Mais quelqu'un qui me dit « Hey Yann, dans 3 semaines, qu'est-ce que tu penses de « on pourrait peut-être aller manger au resto ». Oui, ce serait une bonne idée, mais c'est quand même dans 3 semaines. C'est encore loin, tu sais. Mais il y en a qui sont capables de planifier leurs affaires. Moi, c'est au jour le jour. Fait que je peux peut-être passer pour un gars qui est désintéressé totalement, mais en même temps, c'est une façon de me protéger pour ne pas avoir à leur dire non dans 3 semaines. Mais je ne sais pas si tu comprends.
Je comprends très bien. Chacun a sa personnalité. Puis je pense que c'est la façon de faire. Tu comprends? Donc, si quelqu'un t'invite et que ton attitude est respectueuse, je pense qu'il n'y en a pas de problème. Tu t'es respecté. Tu sais, l'affirmation, on pourra revenir, ça pourrait être un autre sujet, c'est se respecter soi et respecter l'autre. Puis il y a une question de personnalité aussi.
Puis quand ma blonde a dit « On peut-tu faire l'amour dans 3 semaines? » Je dis « Oui, mais ce soir, ça... »
Tu vois, ça va dans tous les sens. Est-ce qu'elle s'est sentie heurtée ou respectée?
Elle trouvait ça trop vite.
Bien, peut-être.
C'était trop rapproché.
mais tu sais, l'idée, c'est... de ne pas s'insurger à chaque fois. Ouais. De ne pas le prendre... Moi, je pense, puis on l'a peut-être déjà dit, même si ça fait juste quelques fois qu'on est ensemble, on prend les choses trop personnelles. On a toujours l'impression que c'est dirigé vers nous. Mais je pense que l'individualisme, c'est justement ne pas s'investir jamais. C'est ne pas être capable d'ouvrir la porte à quelqu'un qui n'est pas capable de l'ouvrir. Tu sais, c'est... Puis oui, tu as une personnalité, Yannick, qui est... peut-être plus caverneuse de nature, mais t'es là quand il faut.
Oui, oui.
Tu comprends? C'est un peu ça, moi, mon...
C'est juste que j'ai arrêté de m'en faire des fois avec ce que les... Puis là, je parle au jeu, là, mais je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître en moi. J'ai arrêté de m'en faire... À partir... Je ne sais pas si ça a sonné à cause de 40 ans, là, mais j'ai arrêté de m'en faire avec ce que les gens peuvent penser de moi.
Hey, ça, c'est la sagesse.
C'est le combat d'une
c'est
vie.
Comme... Hey. C'est comme devenu un bonheur total. C'est-à-dire, si ça ne me tente pas d'aller à quelque part, je peux le dire ou j'ai juste à pas y aller. Puis c'est pas grave si je suis pas là. Puis les gens disent, ben voyons, comment ça, il est pas là encore. Ça s'appelle juste la vie. Puis lorsque je serai mort à mes funérailles, ils se rappelleront pas du dimanche où j'étais supposé d'être là, au Rouge et Or. Ils vont se rappeler des bons coups.
Il y a très peu de détails ici.
Au bon coup, ils vont se rappeler des bons coups que j'ai faits. Tu sais. On dirait que je me suis libéré de la vie que j'avais dans le regard des autres.
Mais comment, tu sais?
Est-ce que
comment?
Ça se fait pas toujours au lendemain,
non, mais
cette
affaire-là. Je pense que c'est l'âge. Ouais. Parce que je pense pas être plus intelligent que les autres. Moi, je pense que je me considère comme dans la moyenne. Là. Désolé pour toi si tu te considérais comme dans la moyenne. Mais
j'en ai pour 10 ans, ça veut dire.
Je me considère comme dans la moyenne. Puis à 40 ans, à un moment donné, je me suis dit, hey, c'est assez, là.
Est-ce que tu te serais libéré, par exemple, de ton sentiment de culpabilité?
Ben, j'ai libéré.
C'est de ça qu'on parle, le sentiment de culpabilité, tu sais.
J'aime mieux dire oui à quelque chose où je veux y aller vraiment, oui. Puis avoir vraiment du fun, puis mettre le fun en place, que de dire oui, puis avoir de l'air d'un essai de carpe morte à terre. Là.
Mais je pense que c'est plus quelque chose que tu apprends qu'une décision que tu prends. J'ai-tu raison, Yann? Je sais pas comment toi tu l'as vécu personnellement, mais baby steps, là, en tout cas très personnellement, il y a des affaires que j'apprends à dire non, que j'apprends à faire avec le temps. Puis c'est toujours, tu as dit culpabilité, puis je pense que c'était un élément clé pour toutes ces personnes-là qui ont de la misère à mettre leurs limites, à s'affirmer. Puis je pense qu'on tourne un peu dans le même sujet ici, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est des petits pas par petits pas. Puis c'est pas du jour au lendemain que tu es capable de te choisir ou de te respecter dans certaines de tes décisions?
Tu sais, dire non ou dire oui, ça implique quelque chose. C'est une décision. Des fois, c'est des toutes petites décisions, des fois, c'est des plus grosses décisions. S'assumer. Puis si tu restes avec un fioul de culpabilité et de « je suis pas sûr », va vérifier. Puis je pense que c'est une question d'attitude aussi. Savoir dire non, savoir le dire en victimite, savoir le dire en agresseur ou savoir le dire avec respect. Merci beaucoup de l'invitation, mais je ne serai pas des vôtres aujourd'hui. Tu sais, il y a aussi l'attitude qui... Qu'est-ce que tu laisses comme dépôt? Bien, ça appartient à l'autre. Mais si toi, tu es en paix parce que tu as l'impression d'avoir fait les choses avec respect et pour toi et pour l'autre,
ouais.
La façon dont l'autre réagit ne t'appartient malheureusement pas. Tu comprends?
Mais ça revient un peu à l'individualisme, tu sais.
Non.
Fait qu'il y a où la limite?
L'individualisme, c'est se foutre des autres.
OK.
Tu comprends? Donc, je peux avoir dit non à une invitation que tu m'as faite, mais le jour où tu seras en traitement de chimio, je serai à côté de toi de tenir la main.
Mm.
Audrey, je dis même plus pourquoi.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Je dis juste, je ne crois pas être là. Merci beaucoup de l'invitation.
Tu te justifies pas, Yannick.
Je me justifie plus.
Mm.
Parce que souvent, je me disais, ben faut que je mette un peu de sauce, là, je vais mentir un petit peu, genre, mais là, c'est fini. On dirait qu'à 40 ans, là,
j'adore
je suis capable
ça.
De dire à quelqu'un, je serai juste pas là, je suis vraiment désolé.
Puis,
même si c'est pas vrai que je suis désolé.
Ah, ben là, il en reste encore un petit peu, mais il est à 40. À 50 ans, on pense
qu'on va pogner quelque chose. C'est ça.
Mais se justifier, c'est la pire chose à faire.
Hey, mon Dieu,
c'est comme si t'amenais l'autre dans une impression que tu es coupable de quelque chose. Tu sais, c'est donner les dards à l'autre pour qu'il te lance dans le front, se justifier, tu sais. Mais je pense qu'on mélange les choses. Se respecter n'est pas nécessairement d'individualisme. L'individualisme, c'est avoir l'impression que tous les autres autour n'existent pas.
Se respecter n'est pas individualisme, mais ça peut être perçu comme par les autres.
Ben, ça, moi, je pense que...
Et là, la peur aussi, je pense.
J'en ai plus.
Ben, c'est pour ça que tu ne peux pas être garant de comment l'autre va réagir. À partir du moment où tu le fais, je pense que le mot le plus important ici, c'est le mot respect.
Exact.
C'est le mot le plus important à retenir. Si vous avez dormi là, depuis le début de la chronique, puis vous faites un wake-up call, c'est le respect dans les deux sens. Moi, je pense que si tu es là-dedans, tu n'es pas dans l'individualisme, tu es dans la capacité de socialiser intelligemment selon tes propres limites et celles des autres. Mais c'est le mot respect le plus important. T'sais, à partir du moment où tu te respectes, mais tu respectes les autres. Tu comprends? Mm. Tu sais, il y a quatre façons d'être dans le relationnel. Il y a être passif, c'est-à-dire tu respectes les autres, mais tu ne te respectes pas. Tu as l'agressif qui respecte son petit soi, mais qui ne respecte pas les autres. T'as le passif-agressif. J'endure. J'ai tellement enduré que j'explose. Mais quand j'explose, je suis agressif. Je me dis, j'aurais dû fermer ma gueule. Voyons, qu'est-ce que je viens de dire là? J'ai tout bousillé. Donc, la prochaine fois, je vais me taire. J'accumule. Puis, il y a être affirmatif. Respecte-toi, puis respecte les autres, puis tu vas vivre en société en étant bien, le plus souvent possible, parce qu'il n'y a pas de perfection. Puis tu vas être capable de t'adapter aux gens qui sont autour, tu comprends? Puis les choses compliquées ne marchent pas. Les choses simples fonctionnent. J'ai donné une conférence samedi, là. Les gens sont venus me voir, puis une des premières choses qu'ils ont dit, c'est « on pourrait-tu être ton ami puis aller prendre un café? » Parce que on s'est juste senti bien, puis on a tout compris. Ben, c'est ça le but d'un conférencier. Il ne faut pas que tu sois plate, puis il faut que tu vulgarises. Ce qui est le plus intelligent paraît le plus simple. Puis dans la vie, on se complique les affaires. As-tu pensé ça? Pourquoi le penser ça? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Pourquoi j'ai dit quelque chose? Comment j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai fait cela? Puis là, c'est là que tu fais du l'overthinking qu'on a parlé la dernière fois. On peut-tu juste être simple? On peut-tu arrêter de vouloir mentir puis inventer qu'il y a une soucoupe volante dans ta cour puis tu peux pas y aller parce que tu te sens coupable? Non, mais c'est ça! Tu te justifies tellement que tu... Là, tu dis, « Hey, là, j'ai des enfants. Miracle! Je vais pouvoir dire qu'ils sont malades toutes les fois, je vais pas y aller. »
Et moi, j'en dors pas. Non, mais c'est pas, ça! Moi, j'en dors pas. Là. Mais... Des fois, je me sens tellement coupable, je me dis tellement que, ah, merde, ça va déranger. J'aurais dû... Ça réchangeait quoi, ma vie, de me pousser à y aller, là, c'est 2 heures. Je... Ouais, je viens tellement
nuis.
Mal.
Mais tu nuis à ta qualité de vie.
Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce que ça change? T'sais, ces 2 heures dans une vie, c'est quoi? Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais.
C'est peut-être pas la bonne approche, on s'entend. Ben, j'écoute puis j'apprends. Là.
Ça dépend des situations. C'est pour ça qu'il faut... Dans la vie, ça prend du gros bon sens. Tu sais, il répétait beaucoup ces temps-ci, mais tu sais, être capable de regarder une situation puis dire, ben si ton ami t'appelle puis a dit que son père est mort, ben ça va changer quoi dans ta vie, mais ça va changer quoi dans la sienne. Mm. Si tu y vas, ça va faire toute la différence. Mais le party de bledding, ça te tente pas d'y aller. Non, mais l'idée c'est fais simple.
Mais c'est
pas
une bonne question, ça. Ça va changer quoi dans ta vie et dans la sienne? J'aime quand même ça comme
Mais non, comme ça te permet, base, on appelle ça relativiser.
Ouais.
OK? On se pense tellement important des fois qu'on a l'impression que si on n'est pas là, il va y avoir un grand trou puis tout le monde va
ouais,
mourir.
Les, on a l'impression que les 2000 personnes vont s'en rendre compte.
Ben là, qu'est-ce que c'est ça, là, tu sais? Mais te re-questionner en disant... Puis je pense qu'il y a très peu d'événements où tu dois te l'imposer.
Comment ça se passe, ta thérapie, Audrey? Ça...
Hey, non, mais à matin, honnêtement, moi, je suis
non,
sur
mais
les
je suis
raids,
trop dans la thérapie.
Moi, j'adore
non,
ça.
Honnêtement, je lis les réactions aussi sur le Twitch et tout. Au contraire, j'ai l'impression que ça aide beaucoup de personnes parce que je pense qu'on a fait tous les profils aussi, les types de personnes, ce qui fait que tout le monde est capable un peu de se reconnaître puis de discuter par rapport à ça. Mais je trouve ça fascinant parce que je trouve que c'est fait en douceur. Tu sais, c'est des conversations qui sont intelligentes. Quand tu viens en studio, on prend le temps de jaser.
C'est sûr que si on y va trop de front, les gens vont soit se protéger ou se défendre. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est... Puis, je vous le dis, là, on se complique tellement la vie. On est tellement dans le remue-ménage. Alors que si tu penses que tu as blessé l'autre, pourquoi tu ne fais pas juste y demander?
Mm.
Puis moi, puis même en conférence, là, devant, mettons, je dis 400 personnes, là, à la fin des conférences, je dis tout le temps, j'espère que je ne vous ai pas laissé en pire état que je vous ai pris. Puis si c'est passé quelque chose, venez me le dire. Parce que tu ne peux pas être garant de comment les autres accueillent tes propos. Des fois, c'est des propos bien safe, là. Mais des fois, l'autre réagit mal parce qu'il porte en lui quelque chose que tu ne connais pas.
On a toute une responsabilité aussi, justement, de parler, de s'affirmer quand ça ne va pas, là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente de savoir si les autres sont affectés. Tu peux le dire simplement aussi.
Simplement, j'ai-tu dit quelque chose? Je veux juste vérifier. Mais simplement, puis je vous le dis, simplicité volontaire. Je ne le dirai jamais assez à ce micro-là quand je vais venir vous voir. Faites simple. C'est-à-dire, des fois, on écrit des textes, on... Juste regarder l'autre, être juste dépouillé de toute justification, puis juste de dire... Parce que si tu commences avec la justification, t'entraînes l'autre vers la défense. Là, il faut que tu comprennes. Cette fois-là, j'ai ceci, j'ai cela. J'étais pas en bonne... Il va te rentrer dedans, là, t'sais. Il est déjà plus là, il est en train de se défendre. Juste de dire, regarde, je prends quelques minutes, je veux juste vérifier auprès de toi, Audrey, ce que j'ai dit la dernière fois, est-ce que ça t'a heurté? Mettons. Tu sais, juste vérifier, puis arrêter de s'excuser aux 10 minutes. Tu sais, il y a des gens qui s'excusent jamais, qui auraient peut-être besoin d'avoir un petit peu de vulnérabilité. Puis il y a d'autres qui sont en train de s'excuser aux 10 minutes. Ça, c'est de la victimite. Mm. Arrête de t'excuser pour tout parce que tu es en train de banaliser la foi.
Je m'excuse, je suis rentré dans la pièce, j'ai respiré un peu de votre air.
Non, mais...
Je pense qu'il y a un entre-deux aussi.
C'est ça, puis... Tu sais, l'idée là-dedans, c'est... Assume-toi aussi.
Ouais.
Il se peut que mes propos viennent te heurter, mais... Je crois vraiment que c'est ceci ou c'est cela. Puis c'est pas de l'individualisme, ça. Au contraire, c'est apprendre à vivre les uns avec les autres. À force de faire de l'évitement, on va se ramasser tout seul. Et puis là, l'anxiété entraîne l'évitement. Plus t'es anxieux, plus tu fais de l'évitement. « Oh, j'irai plus, j'aurai pas à lui parler. Oh, je ferai pas ça. » Fait que quand t'es dans l'évitement, t'es peut-être dans l'individualisme. Je reviens avec la peur du début. T'sais, si c'est la peur qui mène le monde, on fera plus rien.
Exact. Hmm. Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, éducatrice spécialisée, hommes, femmes, enfants, conférences. On t'en rejoint comment?
Tapez Paul Lévesque, pas d'accent, parce que c'est Paul Lévesque. Vous allez me retrouver. Je suis partout, là. Non, mais je veux dire...
C'est Lévesque, Lévesque.
Le... Il n'y a pas d'accent. Le... J'ai appris ça à mort de mon père quand j'ai passé. Été exécutrice.
Comment ça?
Ben, j'ai toujours pensé que j'étais Lévesque, puis finalement, on est Lévesque.
C'est donc drôle. Mais qu'est-ce qu'on perd mort de Facebook?
J'ai toujours pensé que j'étais Lévesque.
C'est un petit détail quand même. Oui.
C'est bon.
Ben, c'est ça. Fait que Paul Lévesque à commercialyahoo.ca, paullevesque.net.
Ouais. Et là, les cheveux rouges.
Ouais. Oui, je suis facile à retrouver.
T'en as-tu voulu à tes parents de ne pas t'avoir dit qu'il n'y avait pas d'accent? Ouais.
Non, je leur en ai voulu pour certaines petites choses, mais c'était pas l'accent. Puis là, je suis en paix avec ça.
Ouais. T'es en paix maintenant?
Oui, wow. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Des fois, on rumine des affaires qu'on a vécues, puis on l'attribue à l'autre. Mm-hmm. Donc, réglez vos patentes, vous allez être mieux avec les autres.
C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous en studio, ma belle Paul. On va s'arrêter quelques secondes, 11h14. La Fondation du Club Richelieu Québec Ancienne Lorette vous invite à leur 42e soirée annuelle sous la formule de vin et fromage le 19 octobre prochain. Peut-être qu'Audrey sera là, ça ne s'excuse pas avant de ne pas y être. La soirée a lieu au Patro Recamadouille. Donc, c'est là que ça se passe. Patro Recamadouille.
Ça sonne un peu moins cute.
Non, mais tu t'en souviens.
Bien essayé, par exemple.
Patro Recamadour, on connaît ça depuis des années. Donc, les profits de cette soirée-là vont aller à la Maison Jean-Lafrance, la Maison Richelieu, le Patro Recamadour, bien entendu, la Maison des Jeunes de l'Ancienne Lorette et plusieurs autres bonnes fondations. Billets en vente au coût de 125 $ qui inclut le cocktail de bienvenue, trois services de vin, fromage, fruits, pain, terrine, porto et chocolat. Donc, vous allez être gâtés. Puis en plus, on vous ajoute le dessert, le thé et le café. Il y a même un encan silencieux qui va avoir sur place et ça va être une soirée dansante. Donc, Audrey qui aime bien danser. C'est quoi la tune country, là? Tu feras ta demande spéciale ce soir-là. Pour faire un don, vous pouvez vous procurer des billets au richelieuquebec.org. Richelieuquebec.org, on s'arrête. Boulevard 102.1. Pascal CV qui s'amène dans les prochaines minutes pour Marceau le midi. Denis Gravel qui sera là. Denis qui est en shape ces temps-ci. C'est qui se passe, oui, Denis? Il a commencé à mieux s'habiller, plus souriant.
T'as raison. C'est peut-être parce que j'allais dans la face tous les après-midi. J'avais pas pris le temps de remarquer.
Le billet de proximité.
T'as raison.
T'en parlais
mais pas. Non, mais il y a quelque chose que tu dois savoir, par exemple.
Avec tes enfants, ça va être cruel en passant.
Le billet de proximité,
oui,
j'en doute pas.
Tu vas leur dire des choses, puis là, les pères vont tous se reconnaître. Là. Tu leur dis des trucs par rapport à une certaine situation. Je vais prendre quelque chose de banal, mettons au hockey. Okay? Mm-hmm. Moi, j'en ai un qui était à la défense. J'ai dit, Josh, sois toujours en mouvement. Quand la rondelle est dans zone défensive...
Ah, mais si c'est toi qui le dis, ça porte pas. Lui.
C'est ta rondelle, il n'y a pas personne qui a le droit de toucher à ta rondelle, puis tu regardes pour faire une belle passe. Ça, c'est mon gars.
Ma mère me disait quand j'étais jeune, ben oui, parce que la voisine te l'a dit, là, tout d'un coup,
exact.
T'entends puis tu comprends.
Fait que là, le coach, il dit, trois jours plus tard, il dit la même affaire à Josh, la rondelle, elle t'appartient en zone défensive, c'est toi le défenseur, l'autre équipe n'a pas le droit de toucher à ta rondelle, puis quand tu veux la sortir, organise-toi pour faire une belle passe pour pas que l'autre équipe reprenne possession de la rondelle. Puis là, il embarque dans le char, il me répète intégralement ce que moi, j'avais répété le genre une semaine.
C'est pas ce que mon coach m'a dit, papa.
Hey, papa, mon coach m'a dit quelque chose, là. Il faut que je le fasse, là, demain, là. Mais c'est parce que je suis à côté. Ouais. Il me voit, il m'a d'en face à tous les jours.
Oui.
Mon avis n'est pas si important. Ça va revenir, mec, il a 20, 25 ans, là, il va dire, papa.
Parce que la distance va se faire naturellement, tu sais, physique.
Exact.
C'est fascinant pareil, hein? Mais Denis, si ça peut te... C'est juste parce qu'il n'a pas fait son lavage quand il porte des belles jeans et des chemises.
C'est ça.
Oui, c'est ça que j'avais compris, du moins. Il n'aime pas porter des jeans.
Il est-tu comme moi chez eux? Il y a une pile de propre, une pile de sale?
Je me souviens plus si on abordait ça. Je voudrais pas parler à sa place, mais je me souviens vraiment qu'à un moment donné, j'avais dit qu'il était bien habillé, puis il m'avait dit que les jeans, c'est pas ce qu'il préférait. Puis quand il était rendu là, c'est parce qu'il était dû pour un tour de laveuse.
Moi,
en
j'ai
maison,
juste ça,
là.
Les jeans sur le dos.
Mais c'est vrai que tu portes. Mais toi, t'as tout le temps le même kit en différentes couleurs, là. Je veux dire. T'as-tu juste une paire de jeans?
Ben non, ciboire.
Ben non, on sait jamais. non, mais c'est très masculin.
Tu
là.
Verras une paire de jeans.
Ben, il y a des gars qui ont juste une paire de pantalons, puis je veux dire, une paire de pantalons de short, puis ben là, j'imagine qu'ils lavent entre-temps.
J'ose espérer, sinon ça tient de bout.
Ouais.
Non, j'en ai 4-5 à peu près.
Toutes dans le même petit modèle, puis...
C'est tout. Ben, j'ai un petit cul-tête.
Oui.
C'est que j'ai tout le temps...
Vous l'aurez appris dans l'open mic.
C'est ça. Fait que mon petit cul-tête, c'est des... j'achète ça sous Simon.
Oui.
Puis quand je pogne une bonne paire de jeans, exemple, ben j'en achète 3-4. Même affaire sur Amazon. Quand je pogne une bonne marque qui me fit, j'en achète. Ils sont en spécial, mettons.
Fou,
mettons, le t-shirt est à 25$, puis là, il est en réduction à 15$. Ben là, j'en achète 3-4.
Mm.
Puis des fois, je varie à couleur.
Ah ouais, hein? Oui. Des fois, tu te saffines un peu. Ah oui. Enfin!
Des fois, je dis, hey, Caroline, je vais-tu le prendre blanc, cette coup-là?
C'est excitant!
Ça m'excite!
Oh Seigneur!
Mais c'est parce que vous autres, vous avez des codes de couleur. Hein? Ça a l'air que les gars qui mettent des gilets jaunes, c'est des gens qui s'aiment beaucoup.
Oh mon Dieu!
Des gars
main.
Qui mettent des trucs roses, c'est des gars qui veulent montrer qu'ils sont comme au goût du jour. Là.
Oh boy! Ben Denis était fortement au goût du jour hier.
Il était très bien en rose hier?
Il était tout fité. Il était étiquette hier. Gros coton ouaté avec un zipper rose.
OK, mais ça, c'est à cause de la femme de sa vie.
Tu penses?
Ben oui, c'est clair.
Je pense que Denis ne se pose pas de questions à ce point-là.
Hey, la petite calotte rose puis son petit hoodie rose.
Ouais, mais Denis, il y a 368 000 calottes.
Justement, pourquoi avoir pris ce kit-là en particulier?
Il fait des efforts.
J'y crois pas une seconde.
Tu lui poseras la question ce midi dans le pit stop.
On sait-tu à qui on parle demain?
On parle à Denis Morissette, ex de la SQ. On va jaser de technique d'enquête demain. On en a comme trois là, sur le radar. Il va venir nous expliquer comment ça fonctionne un peu en lien avec le procès qu'il y a en ce moment là, sur la dame qui avait la garderie, le bébé de 13 mois qui est décédé en 2019. On a fait une opération Mr. Big.
Quelle belle opération, soit dit en passant.
Ben, des fois, ça marche, des fois, ça floppe. On va parler un peu de tout ça demain avec Danny.
Exact. Merci, Audrey. On s'en jase tantôt.
Salut.
Bye-bye. Merci d'avoir été là. 418-971-101, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. Malajude, radiologie sur les ondes de boulevard, on vient.